Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast mensuel sur la bande dessinée. Nous allons aujourd'hui faire notre deuxième émission, nous allons appeler l'épisode 1. Nous vous souhaitons d'abord la bienvenue. Nous espérons que vous serez très nombreux, en tout cas plus que pour le premier podcast. Je suis avec Mathieu, alias Thio, avec qui nous allons parler de pas mal de bandes dessinées aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
Bonjour. Un beau programme aujourd'hui quand même. Hein.
Ouais. Oh là là, tu fais vraiment super présentateur.
T'as vu, surtout aujourd'hui, je suis venu et c'est moi qui ai plus de bandes dessinées sur la table.
Oui, c'est vrai. Mais tu nous fais très, très franchement présentateur de Télématin. J'aime bien. Oh, un beau programme aujourd'hui.
C'est parce que je le regarde tous les matins.
Bien. Donc, vous allez retrouver nos rubriques habituelles. Le Easy Reading, la bande dessinée rapide à lire. Les presque nouveautés, rubrique que j'appelle le presque neuf. Donc, des sorties des quelques mois récents. Une séquence rattrapage, une BD qui est sortie il y a un bon moment et sur laquelle on revient parce qu'on l'a lu plus récemment. Un intégral, où nous parlerons de l'intégrale d'une série. Et une petite nouvelle rubrique, online, où nous allons parler de soit de blog BD, soit de webcomics, comme on dit, trouvables sur en ligne.
Internet.
Et nous pouvons commencer de suite avec l'Easy Reading.
Ultimate Spider-Man, Ultimatum, troisième et dernière.
Oui.
Parti.
Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté notre dernière émission, et ils sont nombreux, je le sais, Ultimate, c'est l'univers parallèle créé par Marvel pour relancer ses séries à zéro. Donc, on a eu droit à Ultimate pour les Vengeurs Ultimes, nous avons eu droit à Ultimate Spider-Man pour le Spider-Man Ultime, Ultimate Fantastic Four pour les Fantastic Four Ultimes, et ils nous ont fait toute une flopée comme ça. Et donc, la série est en train de tomber un petit peu en désuétude. Ils ont essayé de tout casser pour tout recommencer. Nous avons lu le mois dernier les finales de Ultimates et de Ultimate Fantastic Four, et c'était pas très glorieux. Nous arrivons donc aujourd'hui avec ce dernier épisode d'Ultimate Spider-Man, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Stuart Immonen. Eh ben, c'est plutôt une bonne surprise.
Une excellente surprise. Pour ceux qui ont déjà écouté notre blog de la dernière fois, j'avais été assez critique vis-à-vis justement d'Ultimatum, mais là, cette fois-ci, vraiment, une bonne petite fin. Alors, c'est vrai que tu m'avais déjà passé un Ultimate Spider-Man il y a quelques mois, parce que du coup, tu n'en avais pas acheté au début. Et c'est vrai que déjà, j'avais été un peu séduit par le Spider-Man, mais là, la fin de l'Ultimatum, voilà, tu te dis bon, ben, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner après.
Oui, il faut savoir que Ultimate Spider-Man est la seule série Ultimate que je n'ai pas suivie, ce qui est une grande erreur de ma part, simplement parce que le dessinateur des premiers épisodes était Mark Bagley et j'aime pas trop Mark Bagley. Et puis oui, un peu les problèmes de sous. Mathieu me fait un joli signe avec ses doigts pour me signaler ça, mais bon, j'aime pas trop Mark Bagley. Maintenant, Stuart Immonen, j'adore. Et c'est la seule série qui a eu vraiment une continuité, les mêmes scénaristes tout du long, Brian Michael Bendis, et la seule série qui n'avait pas besoin de tout casser pour reprendre. Suite à un grand cataclysme qui a ravagé tout New York, car c'est le centre du monde, tout le monde le sait, les héros sont tous un peu séparés, les personnages de cet univers Spider-Man, et font un dernier combat. Spider-Man est en compagnie de Hulk sur le début de cet épisode. Et donc le recueil contient deux épisodes, un premier épisode assez classique hein, où ça fait beaucoup de bastons, on découvre un petit peu les relations entre les personnages qui sont développés, surtout le rapport avec Hulk qui est assez marrant, et le deuxième épisode de ce recueil est assez intéressant pour une raison simple, Brian Michael Bendis a fait un épisode muet, tout un dernier épisode avec aucun texte, et qui laisse une sorte de mystère sur l'avenir de la série. Alors, peut-être que Spider-Man est mort. Bon, clairement...
Là, t'as quand même... Enfin, ouais, mais c'est une belle mort. Si elle y est, elle est une belle mort. Bon, on suppose bien qu'il va revenir quand même, parce que c'est Spider-Man, mais... Là, non.
Disons que c'est une bonne fin de série, surtout. C'est,
voilà, là, ça se finit bien.
Si la série devait s'arrêter là, ça ne serait pas une mauvaise fin. Voilà, donc passons rapidement là-dessus pour attaquer le reste de notre podcast.
Bon, attendons quand même la nouvelle série Ultimates, quand même.
Oui, on attend la suite de comment va évoluer l'univers Ultimate. Surprise.
Surprise.
Presque neuf. On attaque tout de suite avec, alors avec un truc un peu particulier. C'est du pur copinage.
Donc c'est à ce moment-là où je dis moi je ne fais aucun commentaire là-dessus. Je veux pas être.
Non mais toi t'as le droit de dire du mal.
Ah ça va. Toi tu peux pas.
Enfin, je peux, mais pas en public. Donc, Pas bête, de Yann Le Borgne. Alors, pour résumer, Yann Le Borgne est mon frère et a sorti un bouquin aux éditions Albiana. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce livre aux éditions, sur le site des éditions Albiana. Ça coûte 8 euros. Et ça raconte... Mathieu, toi qui as le droit de dire ce que tu en penses, dis-le. Je t'écoute.
C'est mesquin quand même, c'est moi qui commence sur le bouquin de ton frère.
Oui, parce que si tu dis des méchancetés, je reviendrai dessus pour te corriger.
Alors donc c'est un livre qui part sur une idée de raconter finalement un petit vécu avec des bêtes. Donc le personnage en fait du blog de Yann se retrouve en contact avec, donc Yann en fait, se retrouve en contact avec différentes bêtes et essaye d'acquérir les capacités de celles-ci. Alors les dessins sont quand même très jolis, même si je trouve qu'ils sont quand même assez inégaux. Je pense que certains datent un petit peu au niveau année et ils auraient peut-être mérité un petit relookage ou une petite remise, une remise en couleur.
Ouais, tu trouves que ça manque un peu de cohérence donc.
C'est ça. Après, alors là, la vie ne vient pas de moi, mais je trouve qu'on a touché un truc assez essentiel, c'est que le texte en dessous manque de continuité tout le long.
Oui, alors en gros, nous avons à chaque fois un animal qui essaie de donner une leçon à l'homme. Et donc, tu trouves que la citation qui est donnée pour illustrer les choses manque un peu de fond. Quoi.
Ouais, manque de continuité aussi, parce qu'il y en a certaines. Ouais. Voilà, oui. ça manque un petit peu de. Il n'y a pas d'histoire qui se dégage ou même une sorte de filigrane qui va se faire derrière, non.
Ouais, il n'y a pas de fil conducteur, il se trouve voilà. Que c'est un peu dommage. Alors effectivement, c'est une série vraiment d'illustrations diverses et variées. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà que c'est un peu ce que j'apprécie le plus dans le style de mon frère. Il a travaillé sur du papier craft et c'est un très beau rendu. Je pense
Par contre, oui, là, les dessins, je suis d'accord avec toi, il y en a qui sont géniaux.
Oui.
Ils auraient peut-être été rafraîchis, je pense que ça aurait pu le faire pour certains. Mais sinon, je trouve que c'est quand même très bien.
Alors, de ce que j'en sais, certains ont été scannés très tardivement, donc ont peut-être un peu vieilli. Enfin, l'encre a un peu fatigué. Donc, ce que je sais que certains scannent, notamment la couverture qui est un peu fade, je trouve. C'est le reproche que je fais principalement. Pas assez péchu au niveau des couleurs. Moi, le principal reproche que je ferais, c'est que c'est très court, en fait. Alors, c'est 8 euros, c'est pas très très cher, c'est un bouquin cartonné, c'est plutôt joli. C'est un petit éditeur, hein, Albiana. D'ailleurs, oui, je... Albiana, pour tous les continentaux. Je trouve que c'est un peu court. Ça se lit à une vitesse phénoménale, on a envie d'en avoir plus. Et c'est un peu dommage. Alors sinon, étant donné que je connais un peu l'auteur, je vais revenir vite fait sur...
Ah bon, tu connais l'auteur
hein. Ouais, je connais l'auteur. Sur l'argument super marketing qui me fait mourir de rire. En gros, clairement, la jeunesse de cette histoire, à ce que j'en sais, c'est juste un truc marrant qu'a voulu faire mon frère. Au niveau des quelques critiques que j'ai pu lire, il y en a qui ont cherché le truc super intellectuel, la démarche philosophique. Il n'y en a pas. Je pense que ce qui est intéressant justement là-dedans, c'est que c'est simple, ça ne se prend pas la tête et que... Même si on peut faire des rapprochements philosophiques, oui, où il y a une citation de Jean-François Bernardini, je veux dire, oh, que c'est beau quand même. Oui, Jean-François Bernardini, le chanteur de Imouvrine, et donc pour illustrer le mouflon, et Imouvrine, ça veut dire le mouflon, pour ceux qui ne parlent pas corse. Je pense qu'à moins que tu aies quelque chose à rajouter là-dessus.
Je m'endormirai moins bête ce soir, je sais ce que veut dire Imouvrine.
Ah, tu ne le savais pas.
Ah ben voilà.
Et ben voilà donc...
je suis un continental, moi, c'est pour
et
ça.
Ouais. Ah, c'est Pinsout. Hein. Donc, voilà, donc moi je trouve ça très sympa. Bon, on peut le commander dans n'importe quelle librairie, ça m'étonnerait qu'il est en stock. Et sinon, c'est qu'on peut le commander sur le site des éditions Albiana, albiana.com, je crois. La suite.
Je crois qu'après,
c'est... Tout seul, de Chabouté.
Un livre.
Un beau pavé. Un beau chez Vent d'Ouest.
Chez Vent d'Ouest, oui, tout à fait. Alors, un livre noir et blanc. Ton impression, parce que ça, voilà, là, on commence vraiment ce qu'on voulait faire au départ sur le blog, c'est-à-dire qu'on a lu le livre, mais on n'en a pas du tout parlé.
Effectivement. Alors, mon impression, déjà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le dessin. Le noir et blanc est très, très intéressant. Il y a une dynamique dedans. C'est une BD plutôt intimiste, donc tout seul de Chabouté, très, très intimiste. Et je me demande ce que cet auteur pourrait faire sur des récits plus épiques quand je vois certains de ses dessins. À l'intérieur, on a un minotaure qui est dessiné. Un centaure qui est dessiné. Et je me dis que Chabouté, alors je ne pense pas que ce soit les sujets qui l'intéressent, hein, pourrait faire de la bande dessinée épique de toute beauté un peu du niveau de ce qu'avait fait Frank Miller sur 300, pour parler d'un dessinateur spécialiste du noir et blanc. Oui, vas-y, non, mais parle.
Non, direct, hein. Tu vises au
haut. Oui, non, je vise au... Moi, enfin, les dessins, le noir et blanc, la maîtrise de ce noir et blanc m'a beaucoup plu. Il y a un rythme très, très lent. C'est-à-dire qu'il peut se passer des pages et des pages où on a juste...
Des dessins.
Un zoom vers une un zoom dans l'image, un paysage, un vol d'oiseaux. Très contemplatif, en fait. Et le fond rejoint vraiment la forme. Donc, c'est un pavé qui fait, je ne sais pas, il doit faire 300 pages, un truc comme ça, non ?
Presque 360 des boîtes. 67.
Voilà. Qui se lit très vite quand même, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'illustrations, il y a très peu de texte.
Très peu de texte.
Et voilà ce que j'en ai pensé. Avant que de dire ça, on aurait peut-être dû dire de quoi ça parle.
Non, d'abord, on a dit que ça nous plaisait.
Oui, déjà, ça nous plaît, oui. Alors, de quoi ça parle, Mathieu ?
En fait, toute l'histoire commence donc sur un chalutier donc, en Bretagne. Moi, j'ai dit que c'est en Bretagne. C'est en Bretagne.
Bon, c'est un phare, c'est un chalutier, c'est la mer, c'est sûrement en Bretagne.
C'est sûrement en Bretagne. Et donc, du coup, il y a donc, le patron donc, du chalut et un nouveau marin qui du coup, se retrouve qui bosse pour lui. Et en fait, il fait des ravitaillements sur un phare, qui est un phare automatique. Parce qu'a priori, pourquoi est-ce qu'on ravitaille un phare automatique ? C'est parce que l'ancien gardien du phare, en fait, lui avait fait promettre de venir amener de la nourriture à son fils, qui vit sur le phare et qui, en théorie, ne doit pas le quitter.
Voilà. Parce qu'il est monstrueux.
Parce qu'il est monstrueux. Donc du coup, le marin en question, lui qui ressort de prison, qui a retrouvé un boulot, se dit, mais voilà, qu'est-ce que je pourrais amener à ce gars-là et que je pourrais amener à ce gars-là et finalement, voilà, il essaie de rentrer en contact avec lui par l'intermédiaire de petits papiers. Et puis bon.
Alors là, déjà, le début de la prise de contact, on est au moins à la moitié du bouquin. En fait, je crois que la grande question de ce bouquin, c'est mais que peut bien faire ce gars depuis des dizaines d'années seul dans ce phare ? Il y a tout un mystère autour de ça.
C'est ce que pose comme question
le marin, quoi. Et on découvre petit à petit qu'en gros, il use de son imagination et de façon et ses passages d'imagination sont illustrés de façon magistrale.
Illustration de labyrinthe.
C'est voilà. Alors, je veux pas briser un peu le plaisir de la découverte parce qu'il y a un peu des mystères au départ. On entend le premier bruit qu'on entend en venant de ce phare, c'est un boom. Et on se demande vraiment à quoi ça correspond, jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Je ne veux pas vraiment gâcher ce plaisir-là. Enfin, c'est vraiment beau. C'est une belle découverte. Alors moi, je connaissais Chabouté pour Sorcière, que j'ai lu il y a très longtemps et dont je ne me souviens pas très bien. C'est à la fois poétique, à la fois intimiste. Vraiment une très belle histoire. Oui, donc là, Mathieu me montre une belle illustration épique quand je te parle de 300 de Frank Miller.
Je pense qu'il a voulu s'en inspirer quand même.
Je ne sais pas s'il s'en est inspiré, mais en tout cas, on reconnaît ce côté-là. Donc voilà, c'est chez Vent d'Ouest. Ça coûte combien ?
25 €.
25 €, ça les vaut. C'est un beau pavé, c'est une belle édition, un beau papier glacé pour du noir et blanc.
Ouais.
Franchement, un bon moment de lecture et quelque chose de sympathique dans la bibliothèque et qu'on a envie de rouvrir de temps en temps, je pense. C'est le genre de bouquin qu'on rouvre avec plaisir, ne serait-ce que pour la beauté des illustrations.
Et puis ça invite au voyage. Ça invite à un petit imaginaire sympa. Quoi.
Voilà.
Ensuite, je crois que c'est...
Je tuerai encore Billy the Kid par...
Oula.
Oui, ils sont pleins.
Faut vraiment que je le dise, c'est en italien ça. Reccioni, Burcelli.
Burcelli.
Ouais, mais voilà, tu vois, voilà, de suite, monsieur, il fait le corse. Cristiano Cucina. Alors là, Werther Del Edera.
Bon,
attends, ouais, on va le dire, vas-y, fais-le.
Je tuerai encore Billy the Kid par Roberto Recchioni, Riccardo Burcelli, Cristiano Cucina, Werther Del Edera et Roberto Recchioni encore, qui fait l'ancrage de quelques pages. Avec des couvertures de Massimo Carnevale. Nous reviendrons sur les couvertures plus tard. C'est de la bande dessinée italienne aux éditions Claire de Lune. Je ne savais pas qu'ils faisaient de la traduction, en fait. Pour moi, Claire de Lune, c'était une sorte de sous-soleil jusqu'ici.
Note quand même, il n'y a aucun soleil sur la table.
Ouais, c'est dommage, j'aurais bien... On parlera, on fera du rattrapage sur l'enfeu, c'est un de ces quatre. Donc, dans la collection Encre de Chine, c'est aussi en noir et blanc. Alors, clairement, l'édition est moins classe que le tout seul de Chabouté. C'est un papier de qualité un petit peu moins impressionnant. Ah tiens, c'est marrant, le prix n'est pas dessus.
Si, enfin.
Non.
Quoi de tu...
Non. Il n'y a pas le prix dessus. Enfin bon, à moins qu'il soit caché sous la jaquette. Non. Bref, ça doit coûter quoi ça? Je dirais une vingtaine d'euros à tout casser.
Ouais, tout casser.
Bon, l'histoire, mais quel est donc cet univers étrange, Matt?
Ben, Pat Garrett a tué Billy the Kid.
Bah, ça, tout le monde le sait.
Mais malheureusement, Billy est revenu en zombie. Donc, beaucoup de zombies sont en train de réapparaître dans le Texas, le Nouveau-Mexique, et on redemande à Pat Garrett de finir le travail pour lequel il a déjà été payé, quoi.
Je tuerai encore Billy the Kid.
Donc du coup, on se retrouve avec d'une part une histoire de cow-boy classique, voilà.
Oui, du western, quoi.
Du western bien mené, avec je trouve des petits plans au Mystère de l'Ouest. Un petit peu comme le début des Mystères de l'Ouest, c'est quand c'est le générique. C'est où tu vois, c'est debout, le truc qui se renroule. Presque, on s'avait pensé à ça au début.
Ouais, c'est vrai que le générique des Mystères de l'Ouest est très bande dessinée, hein. Mais ouais, j'aurais pas vu du tout ce rapport-là, mais bon. Bon, ouais, vas-y, continue. Bon, okay. Non, mais continue.
Ensuite, je sais pas. Ah, j'ai pas envie de dévoiler l'histoire, en fait. C'est,
Bon, clairement, hein, la base, c'est juste Pat Garrett et Billy the Kid qui étaient les meilleurs amis du monde. Pat Garrett a dû tuer Billy the Kid, ça, donc c'est le côté historique, hein, pour les ordres d'un éleveur. Hein. Pat Garrett était shérif. Et donc là, Billy the Kid est revenu et en gros, il dirige une armée de zombies. Hein. Ça, on peut le dire, je crois.
Oui, c'est tout à fait.
Et la façon qu'a Pat Garrett d'essayer d'entrer Billy the Kid, c'est de retrouver la femme qu'aimait Billy, Charlotte. Et c'est à partir de là qu'on a... Alors, c'est très noir. C'est du western zombie, mais très noir.
Très noir.
C'est très dur. On n'est pas dans du John Ford. On est plus dans du Sergio Leone.
Ouais.
Du Sergio Leone avec du Romero derrière, quoi. On est dans du Sergio Romero.
Sergio Romero, c'est ça.
Voilà, allez, western italien. C'est... petite remarque, on a plusieurs illustrateurs qui se succèdent. Donc on a trois illustrateurs différents. On sent que... il y a plusieurs épisodes à l'intérieur du... C'est un recueil, donc on sent que ça a été publié un petit peu façon comics, j'ai l'impression.
Ouais.
C'est un format d'ailleurs un petit peu plus petit que le format comics. Qu'as-tu pensé des successions d'illustrateurs? Donc le premier illustrateur, c'est Riccardo Burcelli, qui a fait le premier et le dernier chapitre.
Moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait une bonne continuité entre les illustrateurs. Donc là du coup, à ta tête, je suppose que toi tu as l'avis totalement inverse.
Exactement.
Voilà. Moi j'ai trouvé qu'il y a une bonne continuité, parce que on sent qu'il y a une différence dans le trait, mais j'ai trouvé que c'était pas gênant, ce changement d'illustrateur.
Alors, en ce qui me concerne, au niveau des illustrateurs, donc Burcelli et Del Edera, donc j'ai beaucoup aimé. Surtout Burcelli, qui a un style vraiment très dynamique, une mise en page très bien foutue, à qui je pourrais rapprocher le dessin. Donc c'est du noir et blanc, mais il y a un côté, je pense un peu à l'oiselle sur certains traits. Étonnamment, hein, ça peut surprendre, mais il y a un petit côté loisel en plus dur, une sorte de mélange entre du loisel et un dessin très noir, très sombre. Je trouve qu'il y a une très bonne gestion du noir et blanc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. L'autre illustrateur est beaucoup plus clair, c'est-à-dire que son ancrage est moins forcé. Il y a un trait très dynamique aux côtés de Cucina, de Del Edera. Par contre, Cucina, je trouve qu'il a un style beaucoup plus réaliste, beaucoup plus classique. Et ça m'a un peu choqué, alors qu'on a des styles qui sont très tranchés, qui sont très dynamiques. Là, on se retrouve avec un style central qui n'est pas mauvais en soi, hein, j'aime bien aussi, mais qui, je trouve, dénote trop par rapport au reste de l'album.
Moi, la continuité, je la place dans le sens où vraiment, je trouve que le trait graphique, c'est un peu adapté au fait à ce qui se passe dans l'histoire. Au début, donc justement, tu vois, tu as vraiment des traits qui sont sombres, c'est les débuts de l'histoire. Et la partie dont tu me parles, c'est quand même la partie où justement, tu as quand même un gros apaisement, quoi. C'est-à-dire que la rencontre entre les deux protagonistes a déjà eu lieu. Garrett a déjà revu Billy the Kid, ils se sont déjà un petit peu tâtonnés à la face. C'est le moment un peu à la cool quand même du livre. Entre guillemets, c'est le moment un peu d'introspection, on fait un retour sur soi-même.
Ah oui, quand il y a les deux mecs qui veulent violer la fille.
Ouais, c'est ça, c'est l'introspection, ça. Non, mais c'est le moment où justement t'as Garrett quand même qui fait un vrai retour sur, qui réfléchit à pourquoi est-ce qu'il a fait ça, comment ça s'est passé. Et je trouve que justement le lien se fait parce que le graphisme change, mais c'est vraiment pas choquant. Au contraire, je trouve que c'était bien, mais bon.
Oui, bah moi, alors ça là, m'avait c'est... un peu perturbé. Bon, bah sur ce, je pense que c'est bien qu'on n'ait pas le même avis. Quoi qu'il en soit, je trouvais que c'était très agréable à lire. Alors, c'est pas la BD du siècle, hein, mais on passe un très bon moment, je trouve. C'est une histoire complète, surtout. Mais on se dit que cet univers mériterait d'être un peu revu. Parlons un peu des couvertures. Alors, l'éditeur les couvertures originales sont faites par Massimo Carnevale et un illustrateur qui fait des... Elles sont superbes. Et l'éditeur Claire de Lune a décidé de faire un montage avec un bout d'une des couvertures. Et bon, c'est pas moche, hein, mais avoir juste des couvertures en petit sur la jaquette en couleur, je trouve ça vachement dommage.
Ouais, parce que vraiment, elles sont splendides.
Et là où j'ai découvert que je connaissais cet illustrateur, Massimo Carnevale, c'est en regardant ses couvertures et j'ai été surpris. D'un point de vue structurel, il y avait quelque chose de très proche, que je connaissais. Bon, en faisant un petit peu d'analyse de l'image, on se rend compte que la structure de ces images est en Y sur toutes les couvertures. Oui, mmh. Matt,
ouais, ouais, ouais. Non, c'est valide.
Et c'est là que je me suis rendu compte que, et c'est une transition de toute beauté, c'est le cover artiste de Y, le dernier homme, Massimo Carnevale. Alors, je ne sais pas quel moment il les a fait par rapport à Y, mais on dirait que c'est un type qui lui a beaucoup amusé de travailler toutes ses mises, ses compositions autour de ce Y.
Un truc, ouais, je change juste.
Ouais, tu es loquace.
Ouais, non, je suis loquace. Regarde là d'en bas, parce que moi tout à l'heure je la voyais comme ça.
Ouais.
Et là, tu vois, t'imagines deux jambes,
ouais.
Une ceinture, et comme si finalement le reste du truc c'était le col, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu tiré. Effectivement, il y a un peu de ça, mais...
Non, mais bon, ça va, c'est bon. Juste... Passons.
Passons. Donc, passons sur Y, le dernier homme, le dernier tome, qui est le tome numéro 9.
Ce n'est pas le dernier tome.
Ce n'est pas le dernier tome, oui.
C'est le dernier tome paru.
Et qui regroupe les épisodes 49 à 54 de l'édition américaine. Donc, et là, nous sommes chez du Panini Comics, hein. Donc, avec leurs albums de Vertigo, qui sont au niveau de l'édition, justement, là, l'avantage, c'est que toutes les couvertures de Massimo Carnevale, on les a en pleine page et en superbe, quoi. On a encore des exemples, je trouve. Je trouve qu'il arrive à se renouveler régulièrement avec pourtant une thématique qui est à chaque fois toujours la même. C'est vraiment un épisode de changement, je trouve. On sent qu'on s'approche de la fin de la série. C'est vraiment un épisode de transition vers les derniers événements. C'est-à-dire qu'on conclut une intrigue, on en démarre, on démarre pas vraiment une autre, mais on lance les rails sur ce qui va se passer à peu près.
Ouais, donc là surtout, il clôture quand même la grosse intrigue de toute l'histoire, quoi.
La grosse intrigue, oui. C'est-à-dire quelle est l'origine
du fait que
du virus qui a tué tous les hommes,
sauf
un, qui est Yorick. Donc, Y, le dernier homme est une très bonne série, hein, donc de Brian Cavogan, illustrée la plupart du temps par Pia Guerra, qui de temps en temps fait des pauses, parce qu'il faut savoir que 22 pages mensuelles, c'est pas très forcément évident.
Un peu fatigant, je pense.
Voilà, et a donc, sur des épisodes, je dirais, de transition, le soutien d'autres illustrateurs. Dans ce cas-là, c'est Goran Suzuka, sans doute un émigré croate. C'est le Kovacs du comics, peut-être.
Suzuka.
Alors, attends.
Comment tu l'écris? Parce que sinon, c'est un croate japonais.
S-U-D. Alors, Z avec un trait dessus, je ne sais pas trop ce que
ah,
c'est.
Ouais, non,
Z avec un trait dessus, c'est croate. UK, enfin, croate.
Enfin, c'est vers là-bas. Hein,
voilà. Donc, le Kovacs du comics.
Le Kovacs du comics, c'est ça.
En gros, la base de l'histoire, hein, c'est tous les hommes sont morts, sauf un et son singe, qui est un mâle aussi. Et ils essaient de savoir pourquoi. Et donc, dans ce tome 9, nous apprenons enfin les raisons. On va passer assez rapidement dessus, parce que ceux qui aiment vont continuer à le lire, ceux qui n'aiment pas n'ont pas de raison. D'un point de vue découverte, il vaut mieux commencer par le premier tome.
Il faut lire toute l'histoire, hein, vraiment, parce que c'est...
Pour l'apprécier. Petite critique sur le dessin assez rapidement. Théo, qu'est-ce que t'en penses, toi, du dessin de Pia Guerra, déjà?
Bien. Enfin, bien. Excuse-moi, c'est un peu court, quand même. Ton ouais. avis, bien. Allez, débrouille-toi avec ça, vas-y, rebondis.
Merci. Renvoie-moi la patate chaude.
C'est ça, je te refile le bébé. Non, moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Enfin, j'ai découvert la série grâce à Pied, et je l'ai suivi du début jusqu'à maintenant. Je trouve que graphiquement, ça reste. C'est bien, c'est pas exceptionnel. Je reste pas sur les fesses à chaque page. Hein, ça faut quand même le dire. Mais je trouve que voilà, c'est réaliste. Ça tranche.
Ça fait bien son boulot. Quoi.
Voilà. Mais bon, sans que ce soit non plus.
Moi, ce que j'apprécie beaucoup, et je pense que ça vient du fait qu'on est une illustratrice quand même, hein, c'est que les visages féminins sont vraiment variés. C'est quelque chose auquel j'ai fait attention, sans doute parce que c'est une histoire où il n'y a plus que des femmes, hein, en gros. Mais je trouve les visages féminins très variés, alors que la plupart des dessinateurs de comics ont un modèle de visage féminin, changent la coupe de cheveux, rajoutent du maquillage ou pas, et se démerdent avec. On n'en est pas au point des mangas où ils changent juste la couleur des cheveux, rose, violet, pour savoir à quel personnage on a affaire. Mais enfin, moi, je sais que c'est un style efficace, qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais qui vaut le coup. Par contre, scénaristiquement, alors Brian Cavogan est connu pour avoir bossé sur beaucoup de choses, hein, niveau comics. Y, le dernier homme, c'est un de ses projets personnels. Son autre projet qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Pride of Baghdad. On y reviendra peut-être, un de ces quatre.
Ouais, ça, il faudrait qu'on le fasse.
Là, scénaristiquement, pour moi, voilà, on apprend l'origine du virus. Alors, on ne sait pas encore comment est-ce que ça va avoir un remède, etc. D'ailleurs, on n'a aucune idée dans cette série à savoir s'ils vont réussir à trouver un remède ou pas.
Déjà, s'ils vont trouver un remède, puis même s'ils ont l'envie
de trouver,
un remède.
Par contre, s'ils ne trouvent pas de remède, c'est la fin de l'espèce humaine. Hein. Ouais, non, c'est le clonage, ce genre de trucs.
Le clonage, l'assimilation artificielle.
Ouais. Bon.
Bon.
Enfin bon, c'est une série qui fait se poser beaucoup de questions, qui n'est pas caricaturale. C'est un sujet, je veux dire, auquel on a beaucoup pensé. Hein. Ah, et si il n'y avait plus qu'un homme sur Terre, un très bon scénario de film porno, d'ailleurs. Mais donc, on s'attend à ce genre d'excès. Alors que non, c'est très bien foutu. On apprend que le monde se réorganise petit à petit, parce que là, dans la série, le cataclysme a eu lieu il y a 2 ans. Les deux dernières histoires reviennent sur des détails. Par exemple, les deux dernières histoires sont un peu des histoires de transition qui ne suivent pas les héros principaux. Il y en a une qui suit le rôle des femmes qui ont dû faire le sale boulot. C'est-à-dire que quand on a la moitié de la population qui est morte et qu'on a des cadavres qui sont en train de pourrir de partout dans le monde, il faut les ramasser et il faut essayer d'assainir un peu la situation. Donc on suit... un petit peu l'histoire de ça, et le deuxième est beaucoup plus marrant, la deuxième petite histoire où on suit des artistes qui essayent de faire du cinéma avant de se décider qu'ils vont faire du comics parce qu'ils sont quand même beaucoup plus libres dans le comics.
C'est ça. Voilà. Le petit comics, c'est sympa.
Oui, un style graphique un peu désuet, surtout au niveau de la colorisation. Je trouve que sur les faux comics qu'il y a à l'intérieur, c'est le coloriste qui a fait le meilleur boulot à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, Y, le dernier homme que nous recommandons. Hein. L'histoire progresse, avance petit à petit.
La note d'optimisme.
Oui, oui. Ah oui,
peut-être la nature peut-être reprendre ses droits avant même.
Il y a une note d'optimisme assez surprenante. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en science, il y a encore des rats. Cela fait 2 ans que tous les mâles de la planète ont disparu et il y a encore des rats.
Oui, parce que ça a touché aussi les animaux.
Oui, hein. Oui.
C'est, voilà, faut pas l'oublier.
Ce qui est quand même assez surprenant. Voilà. Donc, suite des opérations.
C'est soit celui-là.
C'est Daredevil, numéro 18. Daredevil, numéro 18, par Brubaker, Ruka, Lark et Azaceta. Nous poursuivons les aventures de Daredevil, qui sont depuis 18 numéros, on va le dire, hein, bonnes, de qualité. C'est assez surprenant pour une BD américaine. Bah, les BD américaines ont des hauts et des bas. Et sur une grosse série comme Daredevil, on peut s'attendre à avoir une période de creux. Là, je dirais que c'est moins bon, mais ça reste très bien.
Disons que c'est moins bien que ce qu'on avait avant. Mais ça reste quand même passionnant.
Voilà. Alors, sur ce tome en particulier, pour moi, je trouve que c'est moins bien parce que ce tome recueille des histoires de la série classique et un hors-série qui s'appelle La Tarentule.
Le sang de la Tarentule.
Le sang de la Tarentule.
Ça qui fait presque présentation old school. Hein, c'est... Mm-hmm.
Qui bah, n'apporte pas grand-chose à l'histoire, à l'intrigue. Alors, ça prend pas mal de pages dedans. Et bah, c'est vraiment une histoire one-shot hors-série où rien n'avance. Quoi.
Bah tiens, voilà, ça te prend un quart du livre.
Bon, en gros, bon. Que raconte ce tome de Daredevil, Kyo?
Donc, si je me rappelle bien, Daredevil donc, a de nouveau sa femme qui. Sa femme donc, est devenue folle à cause, donc là, je sais plus.
À cause de Mr. Fear.
Mr. Fear. Mmh. Et donc, du coup, Daredevil est à peu près au bord du gaz. Hein.
Déjà qu'il était dépressif.
Là, ça ne l'a pas beaucoup aidé. Donc, il culpabilise, il dit que c'est sa faute. Daredevil n'est plus un vengeur, on va dire, entre guillemets, à la cool. Là, maintenant, il bastonne. Quoi. Il y va juste pour frapper, pour se faire plaisir, pour se défouler.
C'est vrai que les premiers épisodes, Daredevil avait un petit côté Spider-Man. Il a tourné à la Batman avec Frank Miller,
ouais.
Côté sombre, et là, plus ça va...
Disons que là, il était en pleine dépression, il fallait qu'il se libère un peu, donc il tape.
Oui, là, il tape pas les méchants pour faire la justice, il tape les méchants pour se défouler.
Pour se défouler, exactement. C'est parce que grosso modo, il frappe et puis il oublie de poser les questions.
D'accord.
Bon, l'épisode de la Tarentule, on passe parce que c'est pas.
L'épisode de la Tarentule, c'est l'histoire d'un gars qui essaye de. De retrouver le droit chemin, en gros.
Disons qu'il essaye de faire le Daredevil dans son quartier, quoi.
Voilà, il essaie de faire le Daredevil dans son quartier. L'histoire est intéressante sans plus. Disons que ça se laisse lire. C'est bien écrit, mais c'est pas non plus captivant. Par contre, la deuxième partie du bouquin, là où on arrive vraiment sur quelque chose. Sur quelque chose d'intéressant, où la série régulière vraiment réavance.
Ouais. Là, on se retrouve donc avec Daredevil qui bastonne des petits pouilleux dans une ruelle. Là, il croise Luke Cage,
qui fait partie des Vengeurs, mais je ne sais plus lesquels en ce moment. Mais bon.
Et donc, Daredevil, qui est tellement en forme qu'il essaye même de frapper Luke Cage.
Il doit se faire mal.
Il se fait mal, d'ailleurs. Il se pète la main, je crois.
Alors, Luke Cage, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un super-héros qui, lorsqu'il est né, était très, très le super-héros black caricatural. Il était super costaud avec sa coupe afro. C'était très, très drôle. Bon, maintenant, il est devenu un peu plus... il a un peu plus un look de gangsta rappeur. Et il est indestructible, en gros.
Il est blindé.
Il est complètement blindé. Et donc, Daredevil, qui donne un coup dedans, il se fait mal.
Et donc, du coup, on va proposer en fait à son détective privé presque en chef à Daredevil, Dakota, on va proposer une affaire par rapport donc, à un condamné à mort pour que juste pour. Enfin, est-ce que c'était pour juste un coup de main à Cage ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il a envie de sortir Daredevil du.
En fait, je pense que Dakota et Cage essayent de faire sortir Daredevil du trou dans lequel il est en lui redonnant du boulot. Et ouais. Donc Dakota est la détective privée qui bosse pour Daredevil, hein, enfin pour Matt Murdock, qui est avocat pour le coup.
Ah, c'est vrai, c'est pas Daredevil.
Oui. L'histoire, c'est le gars qui est condamné à mort et qui est innocent, sauf que lui, il dit qu'il est coupable. Ça rend la défense un peu complexe. Et donc Dakota part sur une enquête pour savoir ce qui s'est passé.
Donc Dakota se fait un petit peu malmener, elle retrouve son père qui vient de l'avertir de attention. Tu prends trop de risques.
Tu t'approches de choses que tu ne devrais pas connaître. Tu commences à fouiller au mauvais endroit. Bref, on sent qu'il y a une intrigue, un mystère autour de cet homme qui est condamné à mort en étant innocent. Alors en plus, et c'est ça qui est assez intéressant, Daredevil pose souvent des questions sur la justice, hein, c'est que ce mec-là est coupable de plein d'autres choses. Hein. C'est un vrai criminel.
Non, c'est pas un criminel, c'est un avocat.
Le gars...
Ouais, c'était un avocat, en fait. C'est un avocat qui a défendu toutes les pires raclures de la Terre, quoi.
Oui, voilà, oui.
C'est pour ça que, justement, ils se disent, bon, ben...
C'est pas trop grave, quoi.
C'est pas trop grave. Mais, au final, Daredevil, enfin, Matt Murdock, retrouve, on va dire, une vraie foi, dans le sens où un innocent ne peut pas être jugé pour ce crime-là, quoi.
Voilà. Et c'est assez intéressant. L'intrigue est très bien trouvée, toujours, je trouve. La résolution est sympathique. La chute de cet arc narratif est... dur, comme souvent dans les derniers Daredevil, hein, on a des chutes très très difficiles et on attend toujours la suite avec impatience, quoi. Enfin, c'est mon cas en tout cas. Vivement le tome 19. Enfin, Daredevil est vraiment une série qui est choyée par l'éditeur et qui met toujours des équipes dessus de qualité. On notera aussi des superbes couvertures qui sont reproduites à l'intérieur, qui sont des couvertures de comment il s'appelle déjà un... C'est toi qui as le bouquin, vas-y.
Ouais, dis-moi, mais ça va, dis-moi.
Djurdjevic.
Je l'ai pas. Ah. Si, Djurdjevic.
Djurdjevic, qui fait des couvertures à tomber.
À tomber.
Donc Daredevil 18, chez Panini Comics, Marvel France, et ça coûte 13,50, si je me souviens bien.
14. L'inflation est passée par
là. Ah là là. De plus en plus dur, on va se ruiner.
Nous arrivons à...
Nous attaquons les choses difficiles. Des choses dures. Transmétropolitaine, tome 5. 2. Warren Ellis et Eric Robertson. Transmétropolitaine raconte l'histoire de Spider Jérusalem, dans un futur assez lointain quand même, proche mais lointain, qui est un journaliste qui s'est cassé de la ville parce qu'il en avait marre, et qui décide de revenir parce qu'il a besoin de sous, en gros.
Ouais, ouais, son ancien rédac chef le rappelle quand même.
Le rappelle. Et Spider Jérusalem est une ordure. Tout ce qui compte pour lui, c'est que l'on connaisse la vérité. Alors, c'est un personnage qui pourrait paraître très antipathique, sauf que nous sommes vraiment dans un futur où la vérité n'existe plus. Où les gens sont complètement contrôlés par les médias, par une sorte de côté amorphe. Et Spider Jérusalem n'est pas d'accord avec ça. Il veut faire évoluer les choses, il veut que l'on sache ce qui se passe. C'est une série très politique, où son auteur Warren Ellis, qui est un auteur anglais, parle pas mal de la politique américaine, et parfois même un peu trop, je dirais.
C'était le tome 3, je crois, qui parlait vraiment des élections. Et c'est vrai que celui-là, je pense que si on n'avait pas suivi les élections américaines, on était un petit peu paumé à des moments quand même.
Alors l'histoire reste intéressante, c'est outrancier, ça part dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses références à la situation géopolitique actuelle qu'on capte pas souvent. Dans le tome 5, Spider Jérusalem est dans la merde.
Bah, il va crever. Enfin, je l'ai dit.
Merde. Tu l'as dit. Il est gravement malade.
Il est gravement malade, c'est la fin.
Voilà.
Donc le mec est déjà, en fait, bon, il carbure à peu près à tout ce qui est possible comme drogue, alcool, enfin bon.
Clope et compagnie. Oui, mais le vaccin contre le cancer existe.
C'est vrai. Mais pas contre ce qu'il a.
Mais pas contre ce qu'il a, pas de bol. Et donc il a des gros problèmes de cérébraux, en gros. Hein,
ouais, il va devenir un légume plus tard. Donc c'est ça qui lui fait peur, c'est que du coup il va perdre sa cervelle, donc perdre sa capacité à produire des articles.
Et à dire la vérité. À sortir la merde de là où elle est cachée. Et donc, il y a ça. Il a en plus été interdit d'écrire sur les principaux canaux officiels. Il est obligé d'écrire sur des canaux qui sont illégaux, en gros, hein, détournés. Il a perdu énormément de sa crédibilité vis-à-vis du public, parce que le nouveau président, qui s'appelle Le Sourire, a bien géré les choses. Et là, il a décidé d'essayer de sortir de son trou pour pondre son putain de dernier article qui fera tomber Le Sourire, le président actuel, enfin c'est son surnom, et mourir en ayant fait quelque chose de bien. Et donc, on le voit qui essaye petit à petit de renouer le contact avec des personnes. Étonnamment, c'est certaines de ces personnes qui renouent contact avec lui, dont son ancien rédac-chef.
Dont son rédac-chef, ouais. Et... enfin, ce qui est, non, ce qui est surtout, ce qui fait qu'il se retrouve vraiment obligé de réécrire ce dernier article, c'est que le sourire s'est débrouillé pour effacer tous les documents que Spider avait pu compiler depuis plusieurs années, en fait.
Oui.
Tout ce qu'il avait...
plus d'archives, en... plus de mémoire.
Voilà, toutes les archives ont, été, ont disparu. Donc du coup, il est vraiment obligé de repartir à zéro, c'est-à-dire de retourner sur le terrain, retrouver les gens qui ont été témoins, qui ont participé au fait.
C'est d'ailleurs très intéressant comme question sur la mémoire journalistique. Mm-hmm. Toujours des sujets très intéressants. Alors, c'est outrancier, il y a un vocabulaire terrible. Trouver certaines... les répliques de Spider Jérusalem font toujours mal aux oreilles, tellement il est ignoble. C'est quand même un très bon tome. On le voit qu'il commence à essayer de remonter la pente et qu'il commence à y arriver, mais...
On sent quand même que sur la fin... Enfin, les dernières pages nous montrent bien qu'voilà, il est malade.
Il est malade. Et le dernier tome sera le prochain, apparemment, à ce que je sais. On a une galerie de couverture pour finir. Alors oui, on va parler vite fait. Bon, le scénario est très bon. C'est vraiment le bébé de Warren Ellis, qui est un scénariste vraiment de qualité. Le dessin de Darick Robertson, qui avait dessiné The Boys, dont on a parlé la dernière fois,
oui.
Est vraiment superbe. On sent que... Enfin, je le trouve beaucoup plus efficace que sur The Boys, d'ailleurs. Hein. Il est à fond dedans. C'est vraiment quelque chose de bien travaillé. Et les couvertures sont faites par des auteurs plus ou moins connus, mais toujours de qualité. Vas-y, cite-nous les gars qu'on voit à la couverture en finissant par le plus connu.
En finissant par le plus connu ?
Ah oui.
J.J. Jones.
J.J. Jones. J.J. Jones. Très connu, un illustrateur que j'aime beaucoup.
Glenn Fabry.
Glenn Fabry, qui a travaillé sur les couvertures de Preacher.
Et un dernier qui commence par M.
Mignola ?
Ouais, non. C'est ça. Non. Mobius.
Par Mobius. Quelques couvertures de Mobius, assez inégales, mais alors il y en a une au milieu qui est de toute beauté. Donc Mobius qui a travaillé dessus, comme quoi je pense qu'il a dû aimer, qu'il aurait adoré cette BD, parce que ça m'étonnerait qu'il soit sorti de sa pseudo-retraite pour ne pas se faire plaisir.
Quel âge il a, Mobius, maintenant ?
Oh, il n'a pas d'âge, c'est une légende.
Ah non, mais sérieusement, quel âge il a ? Parce que ça fait tellement longtemps que...
Il doit avoir peut-être 70, hein, dans ses 60-70. Bon. Donc, le Transmétropolitan, tome 5, ça coûte 29 euros, c'est assez cher. Mais alors, pour le coup, le papier a grandement été amélioré. On est passé du papier pourri, genre journaux, à du papier glacé. Et c'est une série qui vaut quand même son papier glacé. Ces enfoirés de chez Panini en profitent pour ressortir les premiers tomes en papier glacé. Et je vais garder mes vieux moches.
Non, parce que les tiens, c'est la première édition, c'est l'original. On ne peut pas revenir là-dessus.
Effectivement.
Après ?
Uzagi Yojimbo, tome 19. On arrive sur quelque chose qui pourrait sembler plus léger. En tout cas, le poids du bouquin...
Oui, là, on est sur du light, mais...
C'est du faux manga. C'est du manga américain.
C'est du manga américain, voilà.
L'auteur est d'origine japonaise, mais il est américain. C'est fortement bien inspiré. Et c'est les histoires d'un samouraï lapin, d'un ronin lapin. Alors, le dessin, c'est du dessin... animalier.
Ouais.
Et c'est une série, moi, que j'apprécie particulièrement. Bah, j'en suis au tome 19, c'est que quelque part, j'aime bien. Que peut-on dire rapidement sur l'histoire de cet Uzagi Yojimbo ?
Bon, mais donc c'est un samouraï qui a plus de maître, donc c'est un ronin.
Oui.
Et puis bon, on va dire, lui, on va le suivre, enfin, depuis le début, on le suit en toutes ces histoires de pérégrination de Ronin, c'est-à-dire le samouraï errant qui suit les règles du Bushido, tac tac, bon, voilà, plusieurs histoires,
la droiture,
voilà, la droiture, l'honneur, et au final, on va avoir de plus en plus d'histoires qui vont, d'histoires justement de conspiration vis-à-vis du shogun, d'histoires de lutte pour le pouvoir de certains seigneurs, et de plus en plus, ces histoires commencent un peu à se croiser. Là, j'avoue, je ferais peut-être que je m'y remette depuis le début, parce qu'il y en a certains, je ne sais plus qui c'est.
Oui, alors c'est vrai que beaucoup d'histoires sont en fait des one-shots, des histoires courtes qui racontent une rencontre, ce samouraï errant. Et certains arcs sont un peu plus longs, ils vont raconter une conspiration, une tentative. Et en fait, tout se mélange petit à petit pour avoir des histoires... Enfin, on a beau avoir des one-shots, le statu quo change tout le temps. Dans ce tome-là, par exemple, il est accompagné de son fils. Sauf qu'il ne peut pas lui dire que c'est son fils.
Non, en fait, il hésite à lui dire.
Il hésite à lui dire. Mais c'est une question d'honneur, c'est difficile.
C'est une question d'honneur parce qu'il a, il a rencontré donc le père adoptif. Et il voit bien donc, que le père et le fils donc, s'aiment. Et lui se pose la question, est-ce qu'il peut détruire ce bonheur en leur disant que, lui disant, voilà, écoute, je suis ton père. Mais moi, la fin, elle m'a scié.
Ouais.
Alors, la fin, j'étais...
limite au bord des larmes.
Non, peut-être pas au bord. J'étais pas au bord des larmes, mais vraiment la fin m'a scotché parce que je m'y attendais pas.
Moi aussi, j'ai été vraiment surpris.
Parce que donc ça c'est tout le début. Donc ça fait déjà deux tomes qu'il a.
Deux tomes qui se baladent en fait. Il doit le ramener jusqu'à
un temple.
Jusqu'à un temple. Parce que Jotaro, c'est le nom du fils, va devenir le nouvel apprenti du maître de Usagi.
C'est ça.
Et c'est vraiment une très belle histoire. Là, on a, c'est vrai, beaucoup de personnages qui reviennent d'anciens tomes, pas mal de complots. Graphiquement, c'est simple, mais c'est d'une efficacité redoutable.
Tout à fait.
Ça prend vraiment le meilleur du manga, avec un côté comics au niveau de la narration qui est très, très efficace. C'est beau. Enfin, non, beau, on ne peut pas dire que ce soit beau, en fait.
Le style est simple. Comme tu dis, voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est pas, enfin, on le lit pas pour la beauté, quoi. Je trouve que voilà, l'histoire en elle-même est excellente. Et puis c'est pas du easy reading, mais c'est, voilà, ouais, je sais pas comment le dire là, tu vois, là, ouais. Je l'ai pas.
Enfin, quoi qu'il en soit, Usagi Yojimbo, c'est chez Paquet. Ça coûte 6€ le tome, donc c'est pas très cher. Ça a augmenté, tiens d'ailleurs.
L'inflation.
Et l'inflation, c'était le prix du papier. C'est vraiment très agréable à lire. Alors, les premiers tomes sont peut-être un peu difficiles à prendre parce que le dessin, pour le coup, est un peu vieillot. C'est une série qui dure depuis des années et des années aux États-Unis. Vous connaissez peut-être Usagi Yojimbo déjà, d'ailleurs. Vous avez pu le voir dans des épisodes des Tortues Ninja dans lesquels il apparaissait en tant que guest star. Oui. Usagi Yojimbo. Alors, bien sûr. Ça avait beaucoup moins de finesse que cette bande dessinée, qui a un côté très enfantin, mais qui, en fin de compte, je trouve, est beaucoup plus mature qu'elle n'en a l'air au premier abord. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, sur Usagi Yojimbo, de Stan Sakai.
Tu veux pas noter cette phrase, parce qu'elle était bien. Heureusement que tu l'as enregistrée. Hein,
ouais. Là, maintenant, nous attaquons notre rubrique rattrapage. Jolies ténèbres de Keras Koe et Fabien Velman.
Alors, je pense déjà il faut que je raconte l'histoire. Mais l'histoire de comment j'ai eu la bande dessinée.
Vas-y, raconte ton histoire.
En fait, voilà, moi, donc, j'ai voulu une bande dessinée donc, pour ma copine.
C'est même pas la tienne.
Si, c'est. Non, attends, elle vit chez moi, ce BD, donc elle est un peu à moi quand même. Et donc, bon, je me balade dans un rayon de bande dessinée d'un grand magasin.
À l'enseigne rouge.
À l'enseigne rouge, c'est ça. Et donc je feuillette ça, je trouve ça sympathique. Bon, je note qu'il y a quelques images un peu subversives, mais je sais que voilà, je l'ai feuilleté assez rapidement. J'ai pas lu toute l'histoire. Voilà.
Côté très enfantin dans le dessin.
Côté très enfantin dans le dessin. Et puis bon, moi l'histoire me semblait assez sympa. Je suis pas allé plus loin. J'offre le livre à ma dite copine, qui le lit,
qui te quitte.
Non. Et qui me dit c'est super malsain.
Oui. Oui. Voilà. Mon amour, je t'offre un livre, c'est beau, tu vas voir. Ouais, c'est malsain, super. T'as échoué là.
J'ai échoué la méthode, enfin vraiment lamentablement. Mais bon, après, en ayant lu toute l'histoire, il y a quand même un côté malsain. On peut pas l'enlever. Il y a un côté qui est dérangeant dans l'histoire, mais c'est tellement bien raconté. Le trait donc voilà est très enfantin, très très mignon, petit.
Avant de parler de ce trait, qu'est-ce que ça raconte?
Non, ça je te laisse le faire. Moi je donne mon avis et après tu continues.
Ah, attends, je vais déjà faire un petit résumé sur ce que ça raconte. Jolies ténèbres, c'est une petite fille qui est morte et nous avons tous les esprits qui la composent.
Toutes les facettes d'elle-même.
Toutes les facettes de sa personnalité, qui sont des petites créatures, en fait, qui commencent à essayer de s'organiser pour survivre dans la nature difficile. Et donc, tout le dessin est réaliste pour ce qui concerne le côté humain. Donc, la petite fille, son corps est dessiné de façon réaliste, la nature est dessinée de façon réaliste. Mais tous les personnages qui représentent les parts de sa personnalité sont dessinés chacun avec un style un petit peu particulier, mais toujours de façon très simple, très enfantin. Et c'est là que c'est dérangeant et que c'est un côté malsain, c'est que ce sont des côtés très enfantins et que ce qui se passe, en fait, c'est très dur.
Très, très dur.
Vas-y, continue maintenant ce que tu voulais dire.
Donc, on va suivre, en fait, l'histoire commence par l'apparition de toutes ces petites facettes qui vont sortir du corps de la petite fille et vont essayer de vivre dans la forêt. Le déroulement donc, va être chronologique, hein, on va avoir presque toutes les saisons qui vont être représentées et on va voir donc, l'avancement de tout ce qui est phénomène naturel vis-à-vis d'un corps humain. Hein.
Disons-le, la décomposition donc.
Et on va voir donc toutes les facettes de sa personnalité qui vont essayer de survivre, de survivre dans une forêt, de créer une sorte de petite société, mais avec tous les aléas de la forêt, quoi. Toutes les créatures qui peuvent tuer, manger.
Clairement, c'est une hécatombe. Il y a du mort non-stop dans cette histoire. C'est terrible, c'est dur.
C'est très très dur. Mais surtout, c'est tous les personnages, c'est toutes les capacités qu'ils ont. Ah, ça, c'est excellent. En fait,
c'est un secret. Mais arrête de dire dans le podcast, ah, ça, c'est excellent. Regarde, je peux pas le dire.
Tu peux pas le dire. Non.
Tu mets l'eau à la bouche des gens.
Mais disons que l'avantage de toutes ces personnalités-là, c'est que chacune a son petit caractère. Et finalement, dans tout le livre, il y a plein de critiques sur. Sur la tolérance, sur la relation avec l'autre.
Je sais pas trop si on peut parler de critique. Moi, je trouve surtout que
c'est pas une critique, mais
c'est une observation. Plus
oui. Enfin, on
sur le caractère dur.
Sur le comportement humain, quoi.
Oui, puis de l'enfant aussi. C'est-à-dire que là, on a des caractères très enfantins, comme quoi les enfants sont cruels.
Pour le coup, quand tu lis celui-là, oui, ils sont cruels. Quand même.
Et en fait, si tu regardes bien. Tous ces comportements qui nous semblent horribles et cruels me semblent pour un enfant le genre de comportement qu'il aura sans se poser de questions. Là, c'est exagéré, c'est très dur, mais on retrouve ça. Bon, clairement, il n'y aura pas de suite, je pense pas.
Non, je ne pense pas.
Voilà, non, mais. Donc, c'est vraiment un one-shot de qualité. Les dessins réalistes sont superbes, les quelques dessins réalistes. Les dessins enfantins s'intègrent vachement bien avec des aquarelles sublimes de la forêt. Je pense que c'est de l'aquarelle. Mm-hmm. Hein,
je pense aussi, ouais.
Carascoe, donc, qui est un couple d'auteurs, font un travail magnifique. Fabien Vellman, que j'adorais. Jusqu'ici pour des choses comme Green Manor, Wonderton, enfin certains de ses travaux qu'il a fait pour Spirou que je trouvais très très fin et très intéressant. Vas-y, je te laisse le mot de la fin sur cette BD qui moi aussi m'a bien touché tellement elle est bien foutue.
C'est ouais, tu vois là tu me refiles la patate chaude et.
C'est chiant.
Ouais, c'est chiant. Mais bon, moi, pour finir, je dirais que c'était vraiment une bande dessinée qui m'a scotché. Scotché parce que tu as une. Graphiquement, c'est très très agréable à lire. Le scénario te dérange et te fait poser des questions et te fait justement, du coup, vraiment encore plus regarder le côté graphique de la chose.
Mais c'est surtout le contraste entre ce qui se passe et la façon dont c'est dessiné.
C'est surtout aussi la facilité avec laquelle. Les personnages peuvent être cruels, mais sans être méchants, quoi. Et juste pour vous dire, il laisse quand même une énorme place, donc une énorme énigme, je trouve, c'est que on ne sait pas ce qui est arrivé à la petite fille.
Et c'est pas ce qui est intéressant.
Et c'est pas ça qui est le plus. C'est la question qui reste en suspens, mais on ne sait pas. Mmh. Finalement, la question n'est pas là, mais pour autant...
Peut-être qu'un jour, l'auteur pourra nous faire une histoire où une petite fille mourra et qui saura les mêmes traits, mais sans faire une sorte de crossover, sans le dire. Ça pourrait être joli.
Écoute, peut-être que si il lit ce podcast, peut-être qu'on pourra...
Mais bon, dirons que ce serait plus un clin d'œil que quelque chose d'essentiel. C'est peut-être déjà fait, d'ailleurs.
C'est exact.
Peut-être que cette petite fille est morte dans un Green Manor.
Non, je les ai relus récemment et non. Mmh,
non ?
Non.
D'accord. Il faudra qu'on se fasse un rattrapage là-dessus aussi. Ou un
intégral. J'aime beaucoup. S'ils veulent faire un tome 4, d'ailleurs, je suis preneur.
Donc, Jolies Ténèbres, chez Dupuis. toujours. Apparemment, Velman est associé à Dupuis. Ça coûte, il y a pas mal de pages, donc c'est une belle édition avec jaquette.
C'est un code prix DU09.
Donc ça coûte DU09. Ça doit être une vingtaine d'euros, je pense, j'aurais tendance à dire.
Peut-être un peu moins.
Bon,
c'est une grosse vingtaine d'ailleurs.
C'est pas important. Claquez votre salaire dans cette bande dessinée, elle vaut le coup, franchement, c'est très très bien.
Mais par contre, ne l'offrez pas à votre copine.
C'est foutu. Ça a l'air beau, c'est romantique, petite fille, une sorte de petite fée au milieu. Non, ce n'est pas.
Mais c'est vrai que du coup, si tu. Enfin, juste une... voilà, pour finir, si on enlève en fait la jaquette dessus et qu'on regarde la couverture cartonnée,
oui.
Ça a quand même de suite quand même une autre gueule. Hein.
Ça a une autre gueule, mais la couve est superbe. Je veux dire, ouais. Cette jaquette, tu l'ouvres en entier, tu la regardes en entier. Je veux dire, t'as un poster magnifique, quoi. Moi, j'adore quand ils font ça. Donc. Notre intégrale du jour concerne une œuvre de Will Eisner. Mathieu est à genoux, il est en train de lécher le sol sous lequel se trouvent les bouquins, qui s'appelle New York Trilogy, qui est une des œuvres de... Je sais pas, je crois que c'est une œuvre de fin de vie. Hein,
ouais, fin de vie.
Fin de vie de Will Eisner. Pour ceux qui ne connaissent pas Will Eisner, déjà, honte à vous. Will Eisner est un des génies de la... du roman graphique américain.
Ouais, en même temps, j'ai découvert Will Eisner qu'il y a 4-5 ans.
Hein. Et tu as dû le découvrir avec ses bouquins théoriques.
Je l'ai découvert en fait quand je faisais parce que j'ai fait un petit mémoire professionnel sur la bande dessinée, donc l'utilisation de la bande dessinée dans une classe. Et donc j'ai dû me pencher sur tout ce qui faisait la technique.
Si vous êtes un élève de Mathieu, envoyez-nous un commentaire qui coulole sur le blog.
C'est vrai, il faudrait que je fasse un petit peu de pub dans ma classe. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Will Eisner avec aussi Scott McCloud. Pour justement dans tout ce qui est technique.
Sur Scott McCloud, un de ces quatre aussi.
C'est quoi, il faudrait qu'on fasse des notes en fait. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc voilà, je t'ai coupé pour signer quand même.
Non, c'est pas grave.
Je ne connaissais pas Will Eisner il y a encore quelques années, mais c'est vrai qu'il faut se pencher dessus. C'est excellent.
Donc, Will Eisner, en gros, a suivi l'histoire de la bande dessinée américaine au niveau de, je dirais, de la bande dessinée industrielle. Il avait son petit studio, il produisait pour les grands éditeurs. Vers la fin de sa vie, il a été professeur d'art séquentiel. C'est lui qui a un peu trouvé ce mot, l'art séquentiel, ça vient de lui. Il nous a quittés il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, je crois.
2004.
Ouais. Déjà. Oh.
Ça file.
Il fait partie de ces gens. Imaginez que César soit encore en vie lorsqu'on décide de donner le titre des grands prix du cinéma français, César. Bon, c'est un exemple pourri. En gros,
il était en vie.
César ?
Ah, le mec qui a fait...
Ah non, je pensais à l'autre. Ah oui, effectivement, l'artiste. Bon, en gros, ah, le fumble.
Oh la honte.
Deuxième fumble. Donc, je pensais à César, l'autre, moi.
À Jules ?
Jules.
Ah oui, non, mais Jules, il a rien à voir avec les trophées. Hein.
Oui, enfin bon, d'un autre côté, César, il n'a rien à voir avec le cinéma.
Oui, mais enfin, il avait à voir avec le pouce qui est à Marseille, par exemple.
Oui, enfin bon, on s'en fout. Bon, en gros, le prix de la meilleure bande dessinée américaine porte le nom de... C'est le prix Eisner.
C'est
le
Eisner Award.
Et l'Eisner Award, bah, le nom de ce prix a été décidé du vivant de son auteur. Ce qui est quelque chose, je trouve, d'assez phénoménal. C'est quelqu'un qui a été reconnu de son vivant comme... Un fondateur de quelque chose de nouveau dans la bande dessinée.
Ah, le premier roman graphique.
Le premier roman graphique.
Et alors, juste pour signaler quand même que Uzagi a eu un Eisner Award.
Oui, Uzagi Yojimbo a eu un Eisner Award. Il me semble que Edard Deville aussi. Il me semble qu'Y, le dernier homme aussi. Et Transmettre, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait eu un aussi.
La vache, on n'a que du bon à table. Hein.
On ne va pas dépenser nos sous dans n'importe quoi non plus. Et il me semble que... oui, dans le bouquin de mon frère, vas-y, montre-le. mais non, il est très très bien. Et si on ne me l'avait pas offert, je l'aurais acheté.
Mais ça, c'est normal, c'est de l'achat familial.
Oh là là. Les gens vont croire que c'est nul. Alors que même pas.
2005, il est
2005,
mort.
2005, donc ouais, 4 ans. Enfin, 5 maintenant. Donc, New York Trilogy. Will Eisner avait deux sujets qui l'intéressaient énormément. C'était la ville de New York, premièrement, et aussi la culture juive. Parce que il était juif, comme beaucoup des auteurs de comics. Hein. Les créateurs de Superman, les créateurs de Spider-Man sont tous des juifs. Voilà. Will Eisner, parlait beaucoup de ces sujets-là, et il a fait une trilogie, entre guillemets, qui regroupe des travaux qu'il a faits sur la ville de New York. Et qui s'intéresse à la ville de plusieurs points de vue. Le premier tome traite de la ville en elle-même, de façon générale. Le deuxième tome parle d'un immeuble. Et le troisième tome parle des gens qui vivent en ville. C'est un ensemble d'histoires assez indépendantes, en fin de compte, qui n'ont comme point commun que de traiter de ce qui se passe dans cette ville, cet immeuble et chez ces gens. Que pourrais-tu rajouter à ça, Mathieu ? Patate chaude ?
Pour avoir découvert l'œuvre d'Eisner assez récemment, va-t-on dire, moi, je me suis régalé en fait sur le premier, qui est la ville, qui est en fait donc plein de petits passages sur une bouche d'égout. Qu'est-ce qui peut s'y passer en fait ? Il s'est intéressé à
perrons, les bouches d'égout, les voyageurs de nuit,
peut se passer de personnes qui transitent par là, et tout plein d'histoires qui très courtes, hein, en quelques cases, mais voilà, enfin la force d'Eisner, quoi, c'est ça, c'est en 9 cases, il t'a fait une histoire complète et enfin, c'est limpide, quoi. Il n'y a pas une case en trop, il n'y a pas un cadrage qui n'est pas là pour faire quelque chose, tout a une utilité, c'est une œuvre d'art, quoi.
Et puis, ce sont des petits moments, des petits morceaux de vie, des extraits de vie où on peut se reconnaître, ou, comme la plupart du temps dans genre situation, reconnaître des gens qu'on connaît.
Aussi.
Il y a des attitudes, des tics. Alors, ça fait un peu daté, parce qu'on a l'impression que sa ville est dans les années 80, en fait. Je ne sais pas si ça date des années 80, mais on a l'impression que sa ville, elle est dans les années 80.
Ouais, mais pas toutes, en fait. Parce que quand
c'est les années 80. 81, 82, 83, les copyrights.
Oui, non, mais...
On est loin de sa mort, hein, en fait.
Oui, non, mais après, quand tu reviens dans les autres tomes, tu vas dans un New York encore plus ancien. Hein.
Oui.
Parce que le dernier, par exemple, sur les gens... quand tu vois les voitures, là, il n'y a pas de doute. Ah, ça y est, tu te fais un truc à la cold case, quoi.
D'accord. Et ce qu'on notera, surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la fluidité de la narration du travail d'Eisner. On passe d'une case à l'autre avec une finesse. Il travaille énormément sans cadre sur ces cases. Et pourtant, on n'est jamais bloqué dans sa lecture. On file toujours tout en... finesse et en douceur d'une case à l'autre. Ça se lit à une vitesse phénoménale. Il utilise des jeux graphiques, des éléments. Il joue avec tout. Tout ce qu'il a entre les mains, tous les outils du médium, il sait les utiliser, il les maîtrise. On peut voir, si vous avez l'occasion de lire le Spirit, ses couvertures, par exemple, du Spirit ont toujours un titre, une mise en forme sur le titre qui est très travaillée. C'est le cas un peu moins dans ce tome-là, parce qu'il s'intéresse moins au titre et plus vraiment à ces petits éléments. On a en plus des postfaces, des citations d'autres auteurs, donc Alan Moore, Neil Gaiman, Dennis Kitchen, qui est son éditeur aussi.
Michael Chabon.
Michael Chabon, qui est un Pulitzer d'ailleurs.
Oui, prix Pulitzer 2001. Avec une histoire qui était inspirée de Will Eisner.
Donc ça reste quand même une référence. Alors certes, c'est pas de la bande dessinée d'aventure où ça en jette dans tous les sens, où il y a de l'action, où il y a du suspense, mais c'est tellement bien raconté. On a envie de rester dans son univers assez longtemps et d'y replonger pour relire d'autres choses. Donc, on reparlera sans doute de Will Eisner et de ses autres travaux plus tard, mais un grand artiste qui est vraiment à retenir. Oui, vas-y, là.
Non, c'est juste, voilà, c'était sur,
quelle page ?
Sur la fin du tome 2, en fait. Il cite justement donc, certains... Donc voilà, il a fait des petits dessins sur les rues désertes, les rues hostiles, les rues tristes, donc c'est vraiment juste... Il y a juste un dessin, mais dans ce dessin, il a représenté exactement quoi. Tout ce que peut voir. D'une rue déserte,
c'est l'archétype de la rue déserte.
Voilà, c'est énorme. Alors, juste pour vous dire quand même que, en cadeau, c'est des bouquins que j'ai fait lire à ma mère.
À ma mère.
Putain, je suis con, ça citait ma mère sur le blog, c'est mort quand même. Et voilà, pour une personne qui n'est pas une lectrice de bande dessinée, elle s'est absolument régalée.
C'est peut-être un bon moyen de faire découvrir la bande dessinée à des gens qui n'y sont pas très sensibles et qui auraient peut-être plus de mal avec un Transmétropolitain ou un Daredevil.
C'est clair, c'est clair. Mais elle, ouais, j'étais resté à Bécassine, hein, donc.
Et là, oui. Ah ouais, non, mais là, c'est une contemporaine de Will Eisner quelque part.
Ma mère, oui, aussi. Merci.
Non, Bécassine.
Elle est plus vieille. Que
ouais, plus vieille.
Mais... Voilà, mais vraiment, c'est des petits moments de vie. C'est une ambiance. Et puis voilà, il y a les petits moments de vie. Il y a tout le fait que tout ce qu'ils nous montrent dans ces bouquins, on les retrouve exactement dans nos vies modernes.
Et même si du temps a passé, il y a peu de choses qui ont changé.
Peu de choses ont changé, exactement.
Et je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur les gens avec les baladeurs, les téléphones, s'il était encore vivant.
Ah, il a une faculté, je pense, d'observation et puis un sens graphique qui est mais hors norme.
Et puis il aimait sa ville, clairement. Il ouais. l'aimait. Et franchement, je me demande. Le 11 septembre a dû être très très dur pour lui.
Je ne sais voilà. pas s'il a fait un truc.
Je ne sais pas. Je sais que son. Enfin, un autre grand dessinateur commençait. Ah je ne trouve plus son nom à fait. À l'ombre des tours. Ah, j'ai un trou de mémoire horrible. Mouse.
Art Spiegelman.
Art Spiegelman, merci. Ouf, oh, le trou de mémoire horrible. Art Spiegelman avait fait quelque chose que lui aussi, c'est un pur New Yorkais. Et puis lui, ouais. en plus, il était en face hein, quand ça s'est passé. mais Will Eisner, oui, ça m'étonnerait. Il a dû faire des choses. Mais c'est vrai que je suis pas au courant. Donc, New York Trilogy, donc trois tomes chez Delcourt. Les tomes ont des jolis codes prix aussi. Je déteste ça.
On va dire, je crois, ça du 20 euros ou du 15 voilà. euros le tome à peu près.
Ça reste bon, clairement un peu cher pour du noir et blanc, mais ça les vaut.
C'est du vraiment... noir et blanc de qualité, surtout en plus que Delcourt là, est en train de sortir donc toute la série, on va dire, enfin a déjà sorti quasiment toute la série des Eisner, Le Rêveur, Jacob le Cafard, le protocole du prix, enfin le prix de Sion.
Ouais, on a beaucoup de retard sur les publications d'Eisner en France. Aussi, pour une raison très simple, c'est que l'adaptation graphique doit être un travail assez immense, tellement il utilise aussi le lettrage comme élément de narration.
C'est clair.
Nous en avons fini avec ce qu'il y a sur notre table. Nouvelle rubrique. Online. Nous allons parler de bande dessinée en ligne. Je vais aujourd'hui m'intéresser à une bande dessinée de Warren Ellis et Paul Duffield qui s'appelle Freak Angels, qui est en anglais, qu'on trouve sur le site freakangels.com, et qui est une superbe BD qui a environ près de 500 pages à l'heure actuelle. Tous les vendredis, 6 nouvelles pages sortent, sauf quelques breaks de temps en temps.
492.
Waouh, quel calcul rapide. Donc tous les vendredis, 6 nouvelles pages sortent. Donc la BD est toujours disponible gratuitement sur Internet. On peut acheter les recueils chez Avatar Press. Et cette histoire, je trouve déjà la démarche fantastique que Warren Ellis décide de lancer quelque chose comme ça, gratos, pour voir si... Je ne sais pas comment ça marche, la version reliée, mais ça vaudrait le coup de les acheter. J'aimerais bien qu'un éditeur français s'y intéresse aussi. Nous suivons en gros l'histoire des Freak Angels, qui sont des gens qui... ont des pouvoirs, apparemment des pouvoirs psychiques, et qui vivent dans le quartier de Whitechapel à Londres, un quartier de Whitechapel dévasté et complètement inondé. Et ils ont une petite communauté menée par ces Freak Angels, de gens qui tentent de survivre et de s'installer. L'histoire débute vraiment lorsque une jeune fille, donc il y a un des Freak Angels qui est un peu un déviant, est la victime d'une tentative de viol de la part de ce gars-là qui utilise ses pouvoirs psy pour ça, et qui est donc prise sous l'aile des Freak Angels, et donc elle devient quasiment membre de la troupe à devoir les aider. Bien sûr, pendant de nombreuses pages, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé et pourquoi le monde est dans cet état. On se doute bien que ce sont leurs super pouvoirs qui ont provoqué ça. À l'heure actuelle, les pages qui sont diffusées actuellement sont un flashback qui nous explique l'origine de la dévastation de Londres. Et peut-être du monde, je ne sais pas jusqu'où ça va. Il y a tout un mystère autour de ce qu'il y a autour. Les dessins de Paul Duffield sont superbes, vraiment très sympas. 6 pages par semaine, je trouve que c'est quand même un rythme assez effréné. Surtout que le trait est très propre. Alors, clairement, il utilise une technique de gaufrier assez classique. Quasiment toutes les pages sont de 4 cases. Parfois, il y a des cases plus grandes, mais quasiment toutes les pages sont de 4 cases. Il est vraiment bien adapté au web aussi. On n'a pas de double planche, hein, forcément. C'est un peu difficile à faire passer. Ça reste très classique pour du web. On est vraiment dans de la BD qui est faite pour être publiée. Et franchement, je le recommande. C'est très sympa. Est-ce que mon petit topo t'a donné envie d'essayer de lire cette chose, même si c'est en anglais ?
Même si c'est en anglais, étant donné que j'ai déjà beaucoup de retard sur une autre série en anglais...
Fable, on pourra y revenir un de ces quatre.
Ouais, mais là, du coup, il faut vraiment que je rattrape mon retard et j'en ai déjà pas mal. Mais a priori, oui, l'histoire elle semble vraiment intéressante, mais le temps me manque. Voilà.
Donc, Freak Angels, sinon, vous pouvez faire comme moi. J'ai acheté un produit dérivé, j'ai acheté un sac Freak Angels, histoire de soutenir cette initiative que j'ai trouvée fort sympathique. Sac de qualité correcte, mais très joli. Plein de poches et tout.
Ouais. Il est où ?
C'est mon sac de tous les jours. Pas celui-là, pas le tank. Bon, on va pas faire le tour de ma maison à chercher mon sac en plein podcast. Pas,
moi, tu me demandes, tu me dis, j'ai acheté le sac. Montre ton sac.
Nous arrivons maintenant à la rubrique hors-série. Et notre hors-série, bah, c'est encore moi qui vais parler. Hein. Quoique non, là, tu peux en parler. Nous allons parler d'Hirocorp. Hirocorp, une série télé qui passe sur...
Comédie,
et qui passe aussi sur France 4. Donc, histoire, si vous n'avez pas le câble. Hein. Hirocorp est donc une série de super-héros françaises, réalisée par Simon Astier, le frère, demi-frère d'Alexandre Astier, bien connu pour son Camelot.
Putain, c'est dur ça, t'imagines, on parle de lui en disant « Oui, non, c'est le frère de machin ».
Je sais, mais ça permet aux gens de situer et de savoir qui il est. Il est dans Kaamelott, il joue qui ? J'ai pas vu tous les Kaamelott en plus.
Yvain.
Yvain, qui est vraiment
Yvain un gland. Yvain ou Gauvain ?
Je sais plus, enfin c'est un gland.
C'est un duo en fait.
Ouais, ouais. Et en fait, bah, il a rien à envier à son frère parce que ce mec-là est très très fort. Donc, que raconte Hirocorp ? Je te laisse raconter le début. Ce que sera plus simple, tu t'en souviens du début ?
Le début. Donc, alors, c'est John. Le héros s'appelle John. Ouais. John se retrouve à venir au chevet de sa tante.
Au chevet
Enfin, pas au chevet, parce qu'elle est déjà morte. Donc, il vient pour enterrer donc, sa grand-mère ou sa tante ?
Sa tante.
Et,
c'est toujours une tante dans l'histoire de super-héros. Oui, vas-y. Non, mais je parle. Voilà, dans le dernier comic box, à la fin, il y a une histoire sur les tantes, dont tante May, tante machin chose et compagnie. C'est toujours une tante dans l'histoire super. Peut-être les collants qui font ça.
Peut-être les collants qui font ça, oui. Et donc, il se retrouve donc à venir donc, pour le décès de sa tante. Et il se retrouve dans un village perdu au fin fond de on ne sait pas trop quelle campagne, mais vraiment perdu, quoi. Et tous les habitants du village semblent quand même vachement, vachement bizarres. Du style, un mec, pour lui servir un verre d'eau, il lui sert le verre d'eau et il met le doigt dedans, quoi. Puis il lui donne ensuite.
Bizarre.
Ensuite, le pain a une marque bizarre de cuisson aussi.
Oui. Et qu'est-ce qu'on découvre, donc, qu'en fait, dans cette ville ?
Ce sont que des super-héros à la retraite.
À la retraite, pas parce qu'ils sont trop vieux, mais parce que leurs pouvoirs sont en train de se casser la gueule. L'exemple le plus mythique, c'est
Acid Man. Qui devient...
Captain Shampoing. Et du shampoing doux qui pique même pas les yeux. Oui, donc c'est très comique. Alors, la série a beaucoup de mal à se trouver dans les premiers épisodes, je trouve. C'est un petit peu lent, on découvre les choses. Alors, ça reste drôle, hein, ça reste sympa, mais on sent qu'il y a une petite recherche. À partir de la moitié de la série, l'intrigue commence à évoluer vraiment. Voilà, en gros, pour moi, les premiers épisodes, il ne sait pas trop s'il veut faire un truc comique, genre les épisodes courts de la première saison de Kaamelott, ou une histoire suivie un peu plus, avec vraiment une continuité feuilletonnante.
Je dirais que les premiers épisodes, surtout, c'est qu'il place quand même tous les personnages et qu'il arrive un peu à créer l'ambiance autour de l'histoire. Vraiment, parce que tu te retrouves dans ce village, toi, tu n'as aucun point de repère. Lui non plus, d'ailleurs. Et finalement, voilà, le fait de découvrir tous les personnages qui sont dans le village par des petites histoires, ça te permet quand même de créer le cadre qui va faire justement que l'intrigue va pouvoir se dérouler quand même assez facilement.
Et donc, bah, l'intrigue, je sens que le village devient le centre d'un grand mystère. Nous apprenons qu'un grand méchant est de retour du côté du bled paumé. Et qu'en fait, une prophétie a annoncé que John allait tous les sauver.
C'est ça.
Sauf que lui, il sait même pas si. Enfin, il a peut-être des super pouvoirs, mais il avait jamais vu de super héros. Ses super pouvoirs, il les connaît même pas. En plus, il tombe amoureux quand même de l'étrangère du village, celle à qui tous les villageois lancent des jeux. Parce que bah, elle n'est pas comme eux. Elle n'est pas comme eux. Elle est étrangère. Ce qui sont d'ailleurs pour moi les meilleurs passages de cette série, la relation entre les deux dans ce couple est fantastique. Il y a une façon de parler, une justesse. De temps en temps, je dirais qu'il y a un réalisme aussi sur le. Bah, je sais pas, c'est, il y a un côté parfois un peu casse-couille, des deux côtés d'ailleurs. Lui qui essaye de s'expliquer mais qui arrive pas. Elle qui veut savoir mais lui qui veut pas. Enfin, parce qu'il a bien sûr au bout d'un moment son identité secrète à gérer, hein, parce qu'il doit faire des choses qu'il ne doit pas lui expliquer. Et puis en plus, tous ses potes, il aime pas. Et il lui jette des œufs. Déjà, lui parler, ils ont du mal. Donc si je voulais revenir sur HeroCorp, c'est parce que les DVD sont sortis le mois dernier, les DVD de la première saison, que je recommande grandement. C'est bourré de bonus, c'est très bien foutu. J'en ai offert à plus savoir qu'en faire à Noël.
C'était pas à moi.
Non, c'était pas à toi. Et que la deuxième saison vient de démarrer sur Comédie. Une deuxième saison qui s'annonce avec un meilleur budget, des effets spéciaux un peu plus maîtrisés, une narration qui pour moi me semble vraiment, on sait maintenant, il a trouvé son ton, il a trouvé où il voulait aller. On est entre le comique et l'intrigue, l'action, etc. L'intrigue ne se passe plus que dans le village, elle s'élargit à travers un petit peu le monde.
À Québec.
Et le Québec.
Bah ça, c'est l'avantage de pouvoir tourner à l'étranger tout en tournant en français. Quoi.
C'est... Ouais, c'est pas mal. Enfin bref, la façon de filmer aussi, selon moi, c'est énormément amélioré. On a, je trouve, dans la façon de tourner, dans le grain aussi, la photographie, c'est un côté très américain. Quelque chose qu'on trouve assez peu dans nos séries françaises jusqu'ici. Surtout que bah, Simon Astier a une liberté totale sur sa série et qu'il fait ça très très bien. On a des guest stars, on a, pour revenir sur la bande dessinée, un générique dessiné par Olivier Perru, qui est de grande qualité, et celui de la saison 2 est encore plus joli.
Ils ont sorti une bande dessinée ou pas de ça ?
C'est en projet. Il y a un projet de bande dessinée, et il y a aussi des projets de webisodes, de micro-épisodes qui vont paraître sur Internet. Ce qui permettront, je pense, d'accentuer le côté comique et d'avoir quelque chose de plus proche de Kaamelott, justement, au niveau de la narration à ce niveau-là. Bref, si vous avez l'occasion de vous offrir des DVD, de regarder sur les diffusions sur France 4, je ne sais pas quand il y en a, si vous avez Comédie aussi, regardez cette série, c'est vraiment quelque chose de très, très sympathique.
Mais laissez-lui le temps de s'implanter.
Il faut laisser quelques épisodes pour apprécier le ton qui est un peu particulier. C'est la fin de notre podcast. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez plus nombreux que la dernière fois parce que bah, c'était pas bézef.
Non, mais ça va, toute notre famille a écouté, nos amis ont essayé aussi.
Oui, oui, au niveau des stats. Bon, nous avons fait un petit peu plus court, mais alors vraiment pas beaucoup. Vous pouvez me suivre sur Twitter, twitter.com/oneapied, pour avoir un peu toutes les news, pour savoir quand sortent les nouvelles émissions. Vous pouvez trouver notre podcast sur iTunes, tous les liens sont présents. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des notes sur iTunes, histoire qu'on soit un peu mis en avant et que on sache ce que vous pensez de notre podcast. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur le blog, auquel on pourra ainsi répondre directement. Quelque chose à ajouter, Thio, à part que tu n'es présent nulle part, sauf sur vous.
C'est ça, je suis présent que sur vous et donc. Attends, je suis sur Facebook, mais je vous donnerai pas mon Facebook.
Ouais, t'as raison.
Voilà. Mais si, par contre, si vous pouviez essayer de m'inviter dans les commentaires pour que j'arrête d'avoir le micro jaune, ça m'arrangerait. On fait une sorte de petite alternance là-dessus, ce serait sympa.
Non, non, tu garderas le micro jaune, c'est moi qui j'arrête des trucs. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons le mois prochain avec de bonnes choses, la licorne, entre autres. Le prochain, 100 Bullets. Et de ton côté, tu nous amèneras quoi d'autre à part la licorne ?
La légende des Nuits Écarlates. Et alors là, je sais pas encore, faut qu'on en parle peut-être Hunter que j'avais. Que j'ai... qui est une série que j'ai commencé mais qui n'est pas encore vraiment bien avancée. Il y a déjà deux bouquins, donc peut-être qu'on attendra encore.
Ouais, je ne garde pas un super souvenir. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je confonds peut-être avec autre chose. Mais bon. Merci de nous avoir écoutés et au mois prochain.
Merci.
Ciao.